Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de Sarah Knafo qui reprend une idée de son compagnon, à savoir Éric Zemmour. Elle a dit sur CNews que donner un prénom français à son enfant, c'est faire un pas vers la France. Alors définir ce qu'est un nom français, ça va être un petit peu compliqué. En l'occurrence, Sarah, Eric, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement français. Français, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne sais pas. Alors du coup, on s'est tourné, pour en savoir un peu plus, vers une somme qui sert de référence, en l'occurrence un livre de Monsieur Alain Dova, qui s'intitule « Dictionnaire étymologique des noms de famille et des prénoms de France ». Alors, on les a pris par un, parce que ça aurait été un peu compliqué, via 600 et quelques pages à ce petit bouquin. Mais par contre, on en a pris certains que l'on retrouve quand même régulièrement dans nos territoires. Par exemple, Alexandre, eh bien, savez-vous que ça vient du grec? Ça veut dire tout simplement celui qui repousse l'homme. Alexandre, non, c'est pas français. Donc, c'est pas possible. Vous ne faites pas un pas vers la France si vous appelez votre enfant Alexandre. Mais appelez-le, par exemple, Charles. Mince, ça vient du germain, Karl, qui veut dire tout simplement homme ou mâle. Est-ce faire un pas vers la France que d'appeler son enfant Charles? Ah, vous voyez, tout ça devient très, très compliqué. Raymond ou Thibault, savez-vous que c'est pareil et ça vient du germain? Alors les Raymond, merde, ils n'ont pas fait un pas vers la France, leurs parents, quand ils ont appelé leurs enfants Raymond. Henri, par exemple, puisque ça a été des noms de rois. Henri, ça vient du germain. Émeric et Henri ont la même racine. C'est la maison puissante. D'accord, mais est-ce que en t'appelant Henri, Monsieur 4, tu avais vraiment fait un pas vers la France? Et Michel alors? Parce que Michel, on a du Michel qui régulièrement nous rappelle que il faut plus l'appeler France. Ouais, mais il parlait d'un bateau. J'espère que cette blague a été comprise. Ça vient de l'hébreu. Celui qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? De l'hébreu, Michel. Ah là 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 là, on n'y arrivera donc jamais. Ah, Gérard. Gérard, quand même, s'il y a bien un prénom français, c'est Gérard. Eh bien non, ça veut dire celui qui lance fort en germain. Alors, est-ce qu'on doit prendre des prénoms qui nous viennent de barbares, parce que quand même, les germains, ce sont des barbares, au titre de ce qu'en disaient les Romains et les Grecs. Est-ce qu'on peut véritablement garder cette francité en ayant un prénom venant de barbares? Je ne sais pas. On pourrait prendre aussi des prénoms féminins. Anne, un nom biblique qui vient de l'hébreu. Anna, gracieuse. C'est très bien d'être gracieuse, Anne, mais ce n'est pas un prénom français. Non, non, ça vient de l'hébreu. Tiens, Sarah aussi, je crois. Élisabeth, eh bien, ça a donné Isabelle aussi. Mais Isabelle, c'est un Élisabeth qui est d'abord passé par l'Espagne et qui, après le XIIIe siècle, devient un prénom à la mode en France. Un prénom à la mode en France, mais qui vient d'Espagne. Eh bien là, vous voyez, moi, tout ça, ça me complique la vie. Pourquoi ça me complique la vie? Parce que si j'avais des enfants, je ne saurais pas comment les nommer pour faire un pas vers la France. De fait, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était une idée à la con. Et cette idée à la con est à rapprocher des bavardages intéressés du Premier ministre du moment sur l'identité nationale. Bavardage qui occupe les esprits pendant que la pauvreté augmente, que les accidents du travail et les morts au travail ne baissent pas pendant que la vie vécue par les ressources humaines devient de plus en plus contrainte économiquement. Notre identité, elle est surtout pas nationale. C'est ce que disait la canaille dans une chanson il n'y a pas si longtemps. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que comment se demander, comment réussir à définir une identité qui serait commune à 67 millions, 68 millions, 69 millions de personnes? Nationalité, c'est le simple fait d'avoir à un moment des droits et des devoirs civiques sur un territoire ou en dehors d'ailleurs, et appartenir à ce qu'on appelle une nation. Voilà la nationalité. Maintenant, en faire son identité, c'est-à-dire ce qui vous caractérise proprement, là, j'ai un tout petit peu de mal. Mais c'est le genre d'idée à la con qui va servir encore à éviter de se poser les vraies questions. En l'occurrence, est-ce qu'il faut que nous continuions à détruire la planète pour le profit de quelques-uns ? Ça, ce serait une question intéressante. De savoir quelle est notre identité nationale, elle est tellement mouvante, tellement fluctuante que je ne sais pas si, à partir du moment où on se pose la question, on n'a pas déjà, en essayant de donner une réponse, un petit temps de retard. On aurait pu vous parler du dernier livre de Joanne Chapoutot, universitaire qui bosse sur... sur le nazisme, le nazisme sociétal, la culture nazie. Voilà, c'est quoi vivre le nazisme ? Eh bien, son dernier livre s'appelle « Les Irresponsables ». Il a paru le 6 février 2025 chez Gallimard, quatrième de couverture. Un consortium libéral autoritaire tissé de solidarité d'affaires, de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, de médias réactionnaires et d'élites traditionnelles perd tout soutien populaire. Au fil des élections, il passe de presque 50% à moins de 10% des voix et se demande comment garder le pouvoir sans majorité, sans parlement, voire sans démocratie. Cet extrême centre se pense destiné à gouverner par nature. Sa politique est la meilleure et portera bientôt ses fruits. Quand les forces de répression avertissent qu'elles ne pourront faire face à un soulèvement généralisé, le pouvoir, qui ne repose sur aucune base électorale, décide de faire alliance avec l'extrême droite, avec laquelle il partage au fond à peu près tout, et de s'installer au sommet. Cette histoire, c'est pas la nôtre. Hein. Là, c'est moi qui reprends la parole. Non, pas du tout. Vous avez une impression de déjà-vu ou de présent-vu ? Eh bien oui, cette histoire, elle se déroule en Allemagne, entre mars 1930 et janvier 1933. Elle repose sur une lecture des archives politiques, des journaux intimes, correspondances, discours, articles de presse et mémoires des acteurs et témoins majeurs. Elle révèle non pas la progression irrésistible de la marée brune, mais une stratégie pour capter son énergie au profit d'un libéralisme autoritaire imbu de lui-même, dilettante et, in fine, parfaitement irresponsable. Voilà, si vous voulez savoir ce qui se passe actuellement, un consortium libéral autoritaire tissé de solidarité d'affaires, de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, de médias réactionnaires et d'élites traditionnelles qui perd tout soutien populaire, voilà, on est en plein dedans. Et si vous voulez savoir comment ça a mal dégénéré en Allemagne dans les années 30, eh bien ce bouquin, Les Irresponsables de Joanne Chapoutot, on aurait pu vous parler de la faillite de l'esprit français. Avez-vous déjà entendu l'heure de Ferry sur LCI ? Une heure durant laquelle Luc Ferry nous fait partager les idées qu'il défend. Parce que Luc Ferry est philosophe, il a donc des idées, c'est son métier. C'est la matière qu'il enseignait difficilement, si l'on en croit les gestionnaires de l'université Paris 7, qui ont eu affaire à ce personnage pendant une quinzaine d'années. Samedi 8 février, dans l'heure de Ferry sur LCI, alors que la conversation s'engage sur les inégalités, on a pu entendre ceci.
Qu'un très grand chef d'entreprise, incroyablement talentueux, qui rend des services à son pays de manière incomparable avec Madame Binet, c'est normal qu'il soit payé plus cher, c'est tout. C'est le marché qui en décide. C'est pas une question morale. Ça n'a rien à voir avec la morale. C'est une question de talent et d'utilité publique. Et je suis désolé, mais Bernard Arnault ou François Pinault sont mille fois plus utiles que... je suis désolé pour la France qu'un militant de la CGT. Je dis, j'y peux rien, c'est comme ça. Oui, il crée plus d'emplois.
Il crée plus d'emplois.
Et plus de richesses. Plus d'emplois, plus de richesses, plus de rayonnement de la France à l'étranger. Et quand Notre-Dame est par terre, c'est lui qui aide à la reconstruire.
Ouais, voilà ce qu'on peut entendre sur une chaîne d'information en continu, c'est-à-dire qu'on doit recevoir des informations, mais en continu. Alors, de fait, l'information, là, je ne sais pas si elle est vraiment en continu, et je ne sais pas si c'est véritablement une information. On pouvait, à bon droit, puisqu'on a affaire à un philosophe, s'attendre à une ou deux références, hein, par exemple, Platon contre Démocrite. Ouais, voilà, il y en a un qui est plutôt à défendre l'idée d'inégalité, qui serait tout simplement inhérente à l'esprit humain. Et puis, il est carrément démocrite. Ouais, il est plutôt pour le peuple et il pense que ce peuple doit avoir une certaine égalité pour pouvoir, à un moment, justement, diriger efficacement un territoire. On aurait pu penser à Tocqueville contre Rousseau. Bon, ils ne se sont pas battus à coups de poing, hein, mais puis Tocqueville, c'était un peu plus tard. Il n'empêche qu'entre Tocqueville et Rousseau, on n'a pas tout à fait la même philosophie de l'égalité ou de l'inégalité, avec des justifications et de l'argumentaire. Plus près de nous, on aurait pu entendre parler des débats qui rappellent la reproduction sociale, les inégalités scolaires, le célèbre dessin de Plantu où on voit un fils d'ouvrier devant un escalier et un fils de médecin devant un ascenseur. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour monter à un moment. L'importance du réseau familial et scolaire dans la carrière. Voilà, on aurait pu entendre parler de tout ça, mais non. Non, non, Luc Ferry reste au niveau du café du comptoir du commerce. Mais c'est donc peut-être mieux que ce personnage ait eu tant de mal à honorer son contrat d'enseignement avec l'université. La prééminence du marché sur la morale. Ah ben ça, j'aurais aimé un petit développement, par exemple. Petite définition de morale aussi. L'utilité sociale d'un grand chef d'entreprise. Ouais, là aussi, j'aimerais bien qu'on argumente et qu'on me convainque. Pour le talent, il s'agirait de le définir et puis la comparaison avec un adhérent à la CGT nous ramène vraiment au ras des pâquerettes de l'argumentation. Cette émission ne nous apprend rien, rien que nous ne connaissions déjà, mais elle montre la façon dont se fait la télé aujourd'hui. Un animateur, un invité, des images qui bougent tout le temps derrière et la répétition de la voix de son maître. Luc Ferry est de droite, hein, depuis toujours, il a été ministre sous Sarkozy et compagnie. Aussi, il rappelle à l'envi les discours les plus libéraux en économie, sans amour de la sagesse. Non, non, non. Ah non, parce qu'il n'est pas du tout amoureux du mot juste et de la réflexion, non, c'est le cas de le dire. Hein. Tout est à l'emporte-pièce avec Luc Ferry. Tant qu'il occupe le terrain, bah oui, parce que de façon claire, pourquoi l'occupe-t-il ? À mon avis, bah, il est sans doute rémunéré. Et puis pour LCI, quel est l'avantage ? Eh bah, c'est une heure produite à pas cher. Hein. Pour le reste du monde, ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça qu'on arrêtera d'en parler. On aurait pu vous parler de Apple qui a des soucis judiciaires à force d'avoir écouté des clients sur son assistant vocal Siri. Mais finalement, quand même, on a préféré continuer et finir de vous parler du livre « Comment les riches ravagent la planète ». Monsieur et Madame Apple doivent en faire partie. Depuis deux émissions déjà, nous sommes avec Hervé Kempf. Mais qui est-ce ? Devinez, il se présente lui-même.
Je m'appelle Hervé Kempf, je suis co-auteur avec Juan Mendes de « Comment les riches ravagent la planète », édité au Seuil. Et par ailleurs, je suis directeur de la rédaction de Reporter, le média de l'écologie.
Et mi-janvier, Hervé Kempf et Juan Mendes étaient les invités de la librairie Bulle pour « Comment les riches ravagent la planète », une BD documentaire éditée au Seuil en 2024. Nous avions quitté l'auteur lors de la dernière mission alors qu'il nous parlait de la justice sociale. De fait, la transition juste et la justice sociale pour mettre en œuvre les réformes nécessaires au rétablissement des équilibres écologiques serait une bonne solution pour Hervé Kempf. Mais taxer les riches, nous l'entendons partout, c'est la fin du ruissellement puisque les riches, par peur de devenir moins riches, partiraient. Retour sur le sujet avec Hervé Kempf.
Le discours que l'on entend habituellement, c'est que taxer les riches, ça empêchera l'investissement, la croissance, le fameux ruissellement, et que de fait, les pauvres vont devenir de plus en plus pauvres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est évidemment n'importe quoi, parce que le problème des riches, c'est qu'ils planquent leur argent, ils n'investissent pas en fait. Donc non, il faut une répartition différente des richesses, et utiliser l'argent qui est volé par les super riches, à des biens communs et des activités qui sont utiles à tous, donc qui aillent dans le sens de l'écologie. Et que généralement, quand on va dans le sens de l'écologie, on va créer des emplois, contrairement à ce que prétendent les griots du capitalisme. Donc aller vers notre politique de l'énergie, qui met tout le paquet sur la sobriété et les économies d'énergie, aller dans une autre agriculture, où on a à la fois besoin de bras, mais aussi de beaucoup moins de pesticides. Au passage, s'il y a moins de pesticides, il y aura moins de maladies, donc il y aura des dépenses de santé qui seront beaucoup moindres. On peut aller aussi vers une autre politique de transport. Là, par exemple, je suis dans la ville du Mans, qui a une longue histoire avec l'automobile, et qui en fait se trouve à vivre dans l'ancien monde, parce que cette automobile, qui employait 12 000 personnes en 1960, emploie beaucoup moins de personnes, en fait. C'est une industrie qui est en crise. Alors que si on développait vraiment des industries du vélo, des industries des vélotos, des industries de petites voitures électriques, on recréait des possibilités d'emploi. Donc cette idée que les riches investiraient avec leur argent est en fait totalement fausse. Ils volent l'argent. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que les très riches volent. Ils volent à la collectivité. Et en plus, ils volent pour détruire la planète. Donc ils volent d'une double manière. En prenant l'argent des gens, le nôtre, le mien, celui de tout le monde, et en volant l'avenir des jeunes générations, et même des générations vivantes à l'heure actuelle, parce qu'il nous crée un tel dégât écologique qu'il va falloir dépenser énormément d'énergie humaine et intellectuelle pour réparer et restaurer tout ce qu'ils auront salopé.
Alors à propos du ruissellement, on lira avec attention la dernière production, puisqu'elle date de janvier 2025, des analyses de la Direction Générale des Finances Publiques. un organisme officiel qui dépend du ministère de l'économie. Un document titré « Revenus et patrimoine des foyers les plus aisés en France » qui montre officiellement que la fiscalité de la Macronie a privilégié les plus riches et que ces derniers ont vu leurs revenus et leur patrimoine s'envoler sans que les autres couches de la société ne voient la couleur du fameux ruissellement. Édifiant et surtout officiel. Je vous le rappelle, hein, revenus et patrimoine des foyers les plus aisés en France, et ça vient de la Direction Générale des Finances Publiques. Les riches prennent plus que leur part, produisent trop et ainsi abîment ce qui permet à tout le vivant de subsister. Pour connaître la nocivité des riches, bien sûr, vous pouvez également vous référer à « Comment les riches détruisent la planète », le livre de Hervé Kempf qui date de 2007, mais aussi les travaux des Pinson-Charlot, les sociologues, les travaux d'Oxfam également, l'ONG, oxfamfrance.org, ce qui vous donnera des informations pour véritablement se demander si les riches ont une utilité sur cette terre. On ne demandera pas à Luc Ferry. Nous arrivons enfin à Patrick Pouyanet, dont il est fait référence dans la BD documentaire « Comment les riches ravagent la planète ».
Si on prend ce que indique Patrick Pouyanet de Total, que vous citez dans le livre « Comment les riches ravagent la planète », il y a un scénario qu'on définit à 3 degrés, 3 degrés et demi, et ça n'a pas l'air de poser véritablement de problème qu'il y ait une augmentation de la température au niveau de la planète, 3 degrés ou 3 degrés et demi.
Il raconte n'importe quoi. D'abord, ce gredin, la rémunération en 2023, 10 millions d'euros. Moi, je refuse de prendre au sérieux des gens qui gagnent 10 millions d'euros. Et ce que dit ce monsieur, si j'en crois, la bande dessinée, excusez-moi de la citer, mais après tout, regardez ce qu'il raconte, ce monsieur Pouyanet. En 30 ans, jamais Total n'a réduit son dividende. Il va continuer à croître car on le fait progresser régulièrement. Je considère que c'est un héritage et que je dois le protéger. C'est-à-dire, pour monsieur Pouyanet, il est plus important de protéger le dividende des actionnaires que la planète. Voilà ce qu'il raconte ce monsieur. Donc je suis partisan de ramener sa rémunération à, allez, on va dire 10 000 euros par mois, et c'est déjà très bien payé, c'est à peu près 5 fois plus que tout le monde, et puis de l'envoyer dans un stage de méditation transcendantale, et... Non, j'en rajoute, là, vous m'embarquez, et qu'il apprenne un peu à faire le compost, voilà.
Parce que de fait, Monsieur Pouyanet a l'idée que 3 degrés, 3 degrés et demi, c'est pas si important que ça. Et surtout, il y aura des solutions techniques qui vont permettre de survivre pour une partie de la population. Qu'est-ce que vous pensez des solutions techniques qui nous sont proposées et vendues régulièrement, là encore, par les médias ?
Tout est dans la dernière partie de votre phrase, c'est vendu par les médias. Donc ils essaient de nous convaincre de quelque chose qui n'existe pas et à qui appartiennent ces médias. Alors, je reviens sur les 3,5 degrés. En fait, c'est la catastrophe. Vous interrogez tout climatologue sérieux. C'est attesté par des centaines, voire des milliers d'études, par les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous interrogez les climatologues. Mais 3 degrés, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement grave. On est déjà à 1,5 degré Celsius de réchauffement de la température moyenne de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle. Là, on se parle en janvier, il y a des feux comme on n'en a jamais vu à Los Angeles. On se serait parlé en décembre, il y aurait un typhon et un cyclone comme il n'y a jamais eu à Mayotte. On se serait parlé en novembre, on aurait parlé d'inondations comme il n'y en a jamais eu à Valence en Espagne. Tous les mois, maintenant, il y a une catastrophe et ça ne va plus cesser. Et donc 3 degrés, c'est simplement inimaginable. C'est-à-dire que quand M. Pouyanet dit le scénario à 3,5 degrés, on va vivre avec, en fait, ce type est un criminel. Mais je ne veux pas le cibler lui personnellement, parce qu'il est lui aussi à 10 millions d'euros. Non, ce n'est pas un valet, c'est un acteur. Lui, c'est vraiment un des seigneurs, un des maîtres de cette oligarchie dont on parlait. Mais ils sont criminels parce que ça n'est pas sérieux. Les technologies, il n'y en a pas une qui marche. Le nucléaire, c'est bancal et on ne sait même pas faire de PR2. Et si on arrive à les faire, ça sera en 2050. Alors que d'ici là, il faut absolument avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 80%. La capture et les séquestrations du carbone, on arrive à faire péniblement 0,001% des émissions mondiales. Enfin, on pourrait toutes les prendre. Il n'y a rien qui marche. C'est simplement pour faire croire aux gens qu'on peut continuer la vie comme ça, sans que rien ne change dans les rapports d'inégalité et dans le mode de consommation matérielle générale.
Proposer le changement pour que rien ne change. Gredin criminel, voilà M. Pouyanet, PDG de Total depuis octobre 2014, rhabillé pour le reste de l'hiver. Alors M. Pouyanet peut-il être qualifié de gredin ? Eh bien, gredin, on est allé voir le dictionnaire de l'Académie française. Ça, c'est une forme francisée du moyen néerlandais grévige qui veut dire avide. Hein, oui, quand même, un gredin est donc avide. Personne qu'on juge capable de tous les méfaits, individu malhonnête, dangereux. Pour s'en convaincre, pour se convaincre que Total participe à ce genre de gredinerie, eh bien, on peut lire l'ouvrage de Alain Desnos, un philosophe québécois, qui est, je cite son site, auteur d'essais critiques, notamment sur l'idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie. En 2017, il écrivait « De quoi Total est-il la somme ?» Ouais, bah ouais, il y a un jeu de mots. Je cite un court extrait de la conclusion. Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, vassaliser, nier, asservir et réagir, et régir, pardon. 12 verbes permettent de résumer la façon qu'ont eu au XXe siècle les multinationales telles que Total de s'affranchir des régimes contraignants des États de droit afin de les contraindre, eux, à leur tour, à un univers commercial les liant à l'échelle mondiale. Ils témoignent d'un ordre qui n'est plus celui du droit mais d'une prétendue science, l'économie financière. En réalité, une idéologie se présentant apte à traduire des phénomènes sociaux et psychologiques fondamentaux, à l'instar de la loi de la gravité, alors qu'il s'agit au contraire pour ces nouvelles règles de façonner un monde selon les paramètres de ce discours, afin qu'il tourne à l'avantage des oligarques qui le promeuvent. Par ces 12 modalités, les multinationales ont su s'affranchir de toute forme d'encadrement politique pour devenir progressivement, selon les 4 principes suivants, la puissance qui domine l'activité publique. Maîtriser les règles du marché, compter sur un État complice, se jouer de la loi et soumettre les États à sa loi. Eh oui, en effet, il faut être prêt à tout pour privilégier les dividendes des actionnaires à la vie du reste du vivant. Eh ben, pour le criminel, se souvenir que Total et Elf connaissaient les dangers de l'exploitation des énergies fossiles depuis très longtemps. On lira alors avec attention un article de reporter, tiens, qui s'appelle « Changement climatique, Total savait » par Alexandre Reza Kokabi. Un article qui date de 2021 dans lequel l'auteur s'intéresse à une étude du comportement de Total quant au réchauffement climatique depuis 1971. Et on a récupéré la conclusion de ce rapport qui est paru en novembre 2021 dans Global Environment Change, qui est une revue que j'ai vérifiée sur Internet, si elle était assez sérieuse ou pas. C'est une revue à comité de lecture, etc. Bon. Alors de fait, en 2021, ils ont sorti un article, qui s'intitule « Alerte précoce et responsabilité émergente, les réponses de Total au réchauffement climatique 1971-2021 ». Il est dit « Au milieu des années 2000, l'entité fusionnée Total, hein, il rappelle que Total et Elf sont ensemble, a intensifié ses efforts pour renforcer sa crédibilité scientifique en soutenant le GIEC et en organisant une conférence sur le changement climatique. L'entreprise a commencé à promouvoir une division des rôles entre la science et l'entreprise, dans laquelle la science décrit le changement climatique et l'entreprise prétend le résoudre, renforçant ainsi sa revendication de légitimité dans la détermination des politiques publiques et des politiques d'entreprise appropriée. Ce cadrage permet à Total de se présenter comme une entreprise pétrolière socialement responsable en enveloppant ses investissements continus dans la production de combustibles fossiles dans un discours attrayant sur la transition énergétique. Une étude très très intéressante sur les techniques des multinationales pour nous faire accepter leur discours changeant et promouvoir l'ignorance. À propos des délires technologiques qui nous s'ouvrons tous, on aura l'intelligence d'aller sur le site du collectif Passerelle. passerelle.ouvaton.org pour y trouver plusieurs articles récents concernant notamment le stockage du CO2, solution miracle du moment, alors que comme tous les déchets, le meilleur CO2 est celui qu'on n'aimait pas. Total n'est pas la seule entreprise multinationale sur la sellette. Hein. On pourrait reparler de Lafarge qui a financé Daesh pour protéger les dividendes des actionnaires, EDF qui veut planter des éoliennes en quantité sur les terres des Zapotèques au Mexique pour accroître les dividendes des actionnaires, donc de l'État français en l'occurrence. Pour plus d'informations sur les multinationales, rien de tel que l'Observatoire des multinationales, multinationales.org. Enquête et veille citoyenne pour la démocratie économique, voilà comment ça s'intitule. Mais comment les riches ravagent la planète ? Possède également un sous-titre, cet ouvrage de Erwin Kempf et Juan Mendez, Et alors, bah, du coup, le sous-titre, c'est « Et comment les en empêcher ?» Alors ?
Une question de prospective, quel est le futur désirable pour vous ?
Eh bien, je vais vous révéler un grand scoop avec Juan, si tu m'autorises à révéler un secret, Juan.
Vas-y, balance.
On balance. Eh bien, l'avenir, c'est une société post-capitaliste, fondée sur la coopération, fondée sur le partage, fondée sur... je ne sais pas s'il faut être à l'égalité absolue, mais en tout cas, une très forte réduction des questions d'inégalité, où l'économie sera fondée sur l'idée essentielle qu'il faut ne pas impacter la biosphère, de respect du vivant. Enfin voilà, ça s'appellera une société post-capitaliste, une société sobre, une société écologique, une société joyeuse, et qui est racontée d'ailleurs par plusieurs très bons livres. Et nous, on travaille avec Juan, là... c'est là le grand secret qui est révélé en ce jour au Mans, à une prochaine BD où justement après avoir fait le constat que je viens de restituer en répondant à vos questions, en fait ce constat tout le monde est au courant, enfin tous les gens un peu sérieux qui font attention sont au courant. Donc maintenant ce qu'il faut c'est redire mais en fait il est possible de vivre autrement. Que les bêtises de M. Pouyanné, les discours de M. Musk et la vision du monde de M. Trump et celle de M. Arnault. Un des principaux problèmes, on est fataliste et on a l'impression que comme ces gens-là sont les plus puissants, ils vont toujours gagner. En fait, il faut se dire non, on va rompre ce cercle, le cercle infernal de leurs bêtises criminelles. Et une façon de le faire, c'est d'imaginer qu'il est possible de faire autrement. Et en fait, c'est tout à fait possible de faire autrement. Donc c'est ce à quoi on va s'employer. Et ce n'est pas seulement Juan et moi qui allons le faire, c'est un mouvement assez puissant dans tout le mouvement écolo en ce moment, tout le mouvement écologiste, de réfléchir à comment on imagine un autre monde. Et pour aller vers cet autre monde et se donner la force de renverser les puissants, il faut l'imaginer et avoir confiance dans le fait que c'est possible.
Il y a un certain Serge Latouche qui parle de décoloniser notre imaginaire, mais une fois qu'il est décolonisé, il va falloir quand même agir. C'est-à-dire faire en sorte que ces riches soient d'accord, soit pour être taxés, soit pour nous emmener vers cette société que vous décriviez tout à l'heure.
Ah non, ils ne vont pas nous emmener. Hein. Non, non, eux, ils vont lutter contre. Eux, c'est des méchants. Ils vont envoyer, ils le font déjà, les forces de police, ils vont lancer la guerre. C'est carrément des méchants, il ne faut pas se tromper. Donc déjà agir, c'est être lucide. Après, il faut être, comme le dit le philosophe québécois Alain Deneau, il faut être lucide et gai. Donc lucide à la fois sur tout ce qu'on vient de dire, lucide sur le caractère violent de ces gens-là, et gay, parce que justement, le monde qu'on imagine est quand même beaucoup plus joyeux. Nous, du coup, on a étudié les riches avec Juan Mendes, mais simplement, ils sont ennuyeux. Il n'y a pas de personnage plus ennuyeux que Bernard Arnault, vraiment. Donc voilà, leur monde n'est pas intéressant. Donc il faut être lucide et gay. Après, bah, moi, je ne vais pas vous donner la solution, la méthode magique en 3 minutes, quoi.
Ah bah dommage! Bon, il est vrai que les techniques d'enfumage de nos soi-disant représentants et que leur programme tout prêt à l'emploi ne fonctionnant pas, eh ben, quand on cherche des solutions sérieuses, c'est sûr qu'il faut réfléchir un petit peu plus que « Ah bah tiens, on va enfermer les 100 narcos, machin. Ah bah tiens, là, on va mettre plus de caméras. Ah bah tiens, ouais. » Et si on s'intéressait à la question sociale un peu ? Bon, bah sinon, on a un scoop. Hein, on n'est pas peu fiers. On attend la prochaine BD avec impatience. Et pour patienter, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait dévorer à nouveau « L'entraide » de Kropotkin. On pourrait lire « La convivialité » de Illich. On pourrait lire « Misère du présent, richesse du possible » de André Gorz. Voilà, dans un premier temps. Et sans oublier de continuer à s'organiser pour agir localement en pensant globalement. Il y a sûrement des collectifs près de chez vous qui se battent pour le vivant. Il existe d'ailleurs une carte sur les internets. Et on vous enjoint également, pour l'actualité locale, à regarder le site sarthe.demosphère.net. Et puis, bah, quand la BD sortira, on s'arrangera pour la voir. Que vous dire de plus que, ben, on le répète, sarthe.demosphère.net vous donne des informations sur ce qu'il se passe dans notre beau territoire. Hein. Par exemple, le vendredi 21 février, il y a une conférence gesticulée sur que manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ça se passera à la Maison des citoyens, citoyennes à 19h. Que vous dire que malheureusement, il y a encore une manifestation comme tous les samedis à 14h pour défendre le peuple palestinien, pour défendre ceux qui se font matraquer, bombarder, tuer, écraser par l'armée israélienne. Et ça a lieu place de la République à 14h à Le Mans. Eh bien, on va se quitter tout simplement en vous disant, allez, Au revoir.